Donc, Alessandro Pignotti, vous êtes un ancien chercheur en sciences cognitives reconverti dans la bande dessinée. Vous explorez la relativité de notre concept de nature. Votre nouvelle BD, La recomposition des mondes, raconte la révolution de notre rapport au monde que le territoire, de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes préfigure.
Je vais faire très vite, surtout qu'il me semble qu'ils vont faire la montre que j'ai moins 8 minutes si on peut respecter le.
Non. c'est ça.
Et en fait, la réponse à la question que Sarah a posée est oui. Voilà. Je vous remercie. Non, mais ça va, surtout ce que je m'apprêtais à dire, on l'a. A plus ou moins été dit, je vais peut-être juste le reformuler d'une façon légèrement différente et mon intérêt pour la ZAD à l'origine était très théorique, même si ma relation à la ZAD a très vite essayé d'être théorique une fois que j'y suis allé. Et donc je vais partir de cette espèce de punchline qui est utilisée entre autres par l'anthropologue Philippe Descola et qui sert d'affiche à ses rencontres, la nature n'existe pas. Descola dit ça de façon un peu provocante pour rappeler que ce qu'on vient de dire de plein de façons différentes, que la notion de concept de nature est, même s'il est extrêmement évident pour nous, de même que la distinction entre nature-culture est une construction sociale relativement récente et propre à l'Occident moderne. Descola rappelle que par exemple, dans aucune des langues amazoniennes, qui pourtant sont très diverses et d'origine très variée, on ne trouve le moindre mot qui pourrait être une traduction même approximative de notre concept de nature. En Amazonie, pour les Indiens d'Amazonie, les interactions les plus spontanées qu'on entretient avec plantes, animaux et éléments du territoire, je vais essayer de retarder le plus possible l'emploi du terme non-humain, même si je vais devoir y venir à un moment. Les relations les plus spontanées avec les plantes et les animaux sont apparentées à ce qui chez nous sont des relations sociales. On discute, on négocie, on se séduit, on s'en veut, on s'engueule, etc. Et non pas des relations d'utilisation qui sont le type de relations qui fondent le rapport occidental moderne au non-humain. Voilà. Et donc la seconde idée qui m'a poussé vers la ZAD, c'est qu'il serait temps de se défaire de ce concept de nature et de la distinction entre nature et culture. Très concrètement, avant même de parler de droit, il me semble ce que ça veut dire, c'est que chez nous, l'interaction la plus spontanée, la relation par défaut avec plantes ou animaux est une relation d'utilisation, que ce soit dans l'exploitation ou dans la protection. Ça aussi, on vient de le dire des dizaines de fois, comme quoi la protection est encore une forme d'utilisation. On protège en vertu des services que un lieu ou des espèces nous rendent, fussent-ils d'ailleurs des services de contemplation, de récréation, comme c'est le cas du parc naturel, mais ça reste une relation d'utilisation. Et c'est la relation la plus spontanée qu'on entretient avec les non-humains, même si ponctuellement, même chez nous, on peut l'inverse, l'opposé de la relation d'utilisation de sujet à objet, c'est une relation de sujet à sujet, où on tient compte spontanément de l'intériorité des non-humains. C'est la relation par défaut qui fonde le rapport des Indiens d'Amazonie, entre autres, aux non-humains. Et donc l'idée, c'est qu'il n'y a pas d'issue à la crise environnementale sans que chez nous aussi, la relation de sujet à sujet devienne notre relation par défaut avec les plantes et les animaux. Encore une fois, elle existe dans l'Occident moderne. Quand on parle à son animal domestique, quand on se dispute avec sa plante verte parce qu'elle ne pousse pas, ou quand un petit éleveur connaît chaque bête par son nom, c'est extrêmement triste quand l'une va mal, etc. C'est des relations de sujet à sujet. Mais chez nous, c'est des petites poches, c'est des exceptions. C'est pas la relation par défaut. Il faudrait tendre vers un rapport au monde où cette relation-là est la plus spontanée. Même s'il restera toujours des relations d'utilisation au sujet à objet, comme c'est le cas aussi en Amazonie, ponctuellement, on considère les plantes et les animaux comme des objets, mais c'est pas la relation par défaut. Et c'est cette distinction, je formule ça en mettant cette distinction-là entre sujet-sujet et sujet-objet au premier plan, parce que c'est très basique, quoi. C'est vraiment deux attitudes cognitives différentes, et on peut avoir cette bascule de l'un à l'autre, aussi bien avec des plantes, des animaux, des objets, qu'avec des humains. Donc, dans la BD. Alors je sais que je ne dois pas montrer de page pendant que je parle, parce que sinon plus personne m'écoute, mais je vais le faire quand même, tant pis. Alors vous n'avez pas le droit de lire. Dans la BD, j'utilise par exemple, pour illustrer cette bascule d'un mode de relation à un autre l'exemple, oui, dans la BD, j'explique ça au café à un gendarme mobile. Mais peu importe. Dans le métro, on est gêné, on enjambe sans y prêter attention des SDF et des migrants en étant agacés parce qu'ils nous ralentissent sur notre parcours de personnes pressées. On les considère comme des objets, c'est une relation de sujet à objet. Mais il suffit qu'on croise un regard ou que pour une raison ou une autre, on soit traversé par une pensée un petit peu empathique, on se sent à leur place et d'un coup, il y a tout un tas d'affects qui s'éveillent et on passe dans une relation de sujet à sujet. Et la même bascule peut s'opérer avec n'importe quel être. Et donc voilà, le concept, c'est très basique, hein, mais de fond, c'est qu'il faut s'interroger sur comment viser un nouveau rapport au monde qui relève vraiment de la révolution cosmologique ou cette relation de sujet à sujet qui tient compte spontanément, de façon empathique, des intérêts, de l'intériorité de l'autre, devienne la relation la plus spontanée. Le souci pour aller vers ça, c'est pas une mince affaire, bien entendu, et c'est a priori, bon, encore une fois, c'est très basique ce que je dis, mais c'est ça a partie liée avec un des autres piliers de l'Occident moderne, qui est l'indépendance et le caractère surplombant des faits économiques. Qui a aussi une particularité de l'Occident moderne. Dans une société traditionnelle, il n'y a pas de fait économique indépendant du reste de la vie sociale. C'est ce qu'on nous a dit, entre autres, quand Samir parlait de la coca comme monnaie d'échange. Ce n'est pas juste une monnaie d'échange, c'est toujours enchevêtré dans tout un tas d'autres dimensions de la vie sociale. Chez nous, les faits économiques ont été isolés du reste de la vie sociale, surplombant, et maintenant ils sont devenus une fin en soi, et le principal outil de légitimation des politiques, de nos dirigeants, et de l'activité économique est devenue une fin en soi. Or, cette sphère économique surplombante a besoin de relations de sujet à objet. Elle a besoin que plantes, animaux et territoires soient considérés comme des ressources ou des sanctuaires, mais en tout cas des choses auxquelles on peut attribuer une valeur chiffrée. Et du coup, il n'y a pas de. Si on suit l'espèce de syllogisme très simpliste que je suis en train de faire, s'il n'y a pas d'issue à la crise environnementale sans aller vers des relations de sujet à sujet avec les plantes, les animaux et le territoire, et si ces relations-là sont incompatibles avec une sphère économique autonome, on voit le bouleversement cosmologique qu'il s'agit d'opérer, surtout dans la mesure où nos dirigeants, au sens très large du terme, tels des espèces de chamans cosmiques entretiennent l'indépendance de la sphère économique et c'est vraiment l'ossature de leur existence de gérer, manier cette sphère économique. Donc la conclusion, ça serait qu'il n'y a pas d'issue à la crise environnementale sans aller à l'affrontement de façon extrêmement directe avec nos dirigeants. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des outils qui, à mon avis, fonctionnent très bien, et à mon avis, le plus efficace d'entre eux est la notion de ZAD, puisque là, on reprend vraiment des morceaux de territoire à l'emprise destructrice de l'État, en gros, et dans ce même mouvement, on défait, dans ce même mouvement de lutte, de défense d'un territoire, on défait la sphère économique, vu qu'il y a des échanges sur la ZAD, et en dehors de la ZAD, puisque la ZAD n'est pas un lieu clos, elle tisse des réseaux d'échanges et de solidarité avec tout un tas d'autres territoires en lutte en France et dans le monde. Ces réseaux sont fondamentalement non marchands, non chiffrés, et c'est cette redissolution de la sphère économique dans les faits sociaux qui permet de libérer les espaces pour tisser ce nouveau type de relation de sujet à sujet avec les non-humains. C'est d'ailleurs intéressant que sur une ZAD, en particulier à Notre-Dame-des-Landes, il y a certes des naturalistes qui s'intéressent aux plantes et aux animaux, il y a tout un tas de gens qui théorisent, qui sont des lecteurs d'Escola, Latour, et qui sont familiers de ces idées, mais pour tout un tas d'autres gens, sont venus là sans intérêt particulier pour les êtres, les plantes, les animaux, ne s'intéressent pas spécialement à ces idées, ils sont venus là pour des raisons militantes ou pour tout un tas d'autres raisons, mais néanmoins, une fois qu'on est pris dans le tissu de relation de la ZAD, spontanément, on en vient à considérer les non-humains et des éléments du territoire comme des sujets. Et donc une des illustrations, une des manifestations de ça, encore une fois, pour faire le lien avec les thèmes dont on a parlé, c'est que personne sur une ZAD n'aurait l'idée d'employer le concept de service écologique pour justifier la protection du lieu. Ça serait extrêmement incongru. Si dans une AG, quelqu'un disait « Ah, j'aimerais bien qu'on me protège contre les flics à cette marque parce que j'arrose mon jardin avec », ça serait extrêmement choquant. Personne n'aurait l'idée de dire ça. De même, personne dirait qu'on protège la forêt de Roanne parce que c'est là qu'on puise notre bois. On ne les protège pas d'ailleurs, simplement on les considère comme des voisins, en gros, comme des membres, comme appartenant au tissu qui fait la vie sociale. Et donc ça semble simplement inconcevable de les laisser être démolis ou attaqués. Et du coup, voilà, c'est cette piste-là qui ouvre, c'est le principe de ZAD. Et en l'occurrence, c'est un de mes sujets d'optimisme pour l'avenir, c'est que que des ZAD fleurissent et commencent à se disséminer un peu partout. Et c'est pas un espoir complètement absurde, il me semble, tant la vie sur la ZAD procure vraiment une sensation rafraîchissante et agréable d'être vraiment dans un monde autre. On sent vraiment, on n'oublie jamais qu'il s'agit vraiment d'un territoire où les fondements cosmologiques, en gros, du rapport au monde sont autres. Et dans un monde qui s'uniformise et qui procure une sensation de claustrophobie de plus en plus angoissante, ces fenêtres où on se sent réellement ailleurs pourraient bien être amenées à se disséminer. Je vais m'arrêter là. On a du temps pour les questions. Merci. Thank you.